Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo et le mystère de la mort par Amal Kiran, Kadé Setna, traduit probablement par lui, traduit de l'anglais en français. Alors, Mère a écrit sur le. C'est Sri Aurobindo qui est ici même avec nous, vivant et conscient. La même vérité concrète est enchâssée dans le magnifique message du 7 décembre qu'elle nous a transmis des profondeurs où elle et Sri Aurobindo ne sont qu'un. Elle, ses mères. Seigneur, tu m'as donné l'assurance ce matin que tu resteras avec nous jusqu'à ce que ton œuvre soit achevée. Non pas seulement comme une conscience qui guide et illumine, mais aussi comme une présence active et agissante. En termes clairs et précis, tu m'as promis que tout de toi resterait ici et ne quitterait pas l'atmosphère de la terre jusqu'à ce que la terre soit transformée. Permets que nous soyons toujours dignes de cette merveilleuse présence et que dorénavant, tout en nous soit concentré sur l'unique volonté d'être de plus en plus parfaitement consacré à l'accomplissement de ton œuvre divine. La supramentalisation comprend parmi ses éléments ultimes la libération des maladies, la prolongation volontaire de la vie et un changement fonctionnel du corps tout entier. Tout ceci, bien entendu, comme l'expression matérielle de l'émergence de la nature divine hors de l'humaine. Et non comme l'agrandissement extérieur d'un égoïsme intérieur envahissant. Mais pour embrasser ces ultimes éléments qui seuls pourront fonder avec une entière sécurité une existence terrestre supramentale, le yogi doit finalement en venir aux prises avec les fondements de l'inconscient, base ténébreuse du divin submergé d'où l'évolution semble naître. Sri Aurobindo et Mère, prenant sur eux à titre de pionniers représentatifs les immémoriables difficultés de toute nature humaine et se sont heurtés à ces fondements depuis plus de 15 ans. Non, ce n'est pas l'empiré qui m'occupe, dit Sri Aurobindo et il l'écrit en 1936 à un disciple. Et il ajoutait : Je souhaiterais que cela fût. C'est plutôt l'autre extrémité des choses. C'est dans l'abîme que je dois plonger pour construire le pont entre les deux. Mais cela aussi est nécessaire à mon œuvre et il faut y faire face. Au cours de cette plongée, comme couche après couche de l'inconscient occulte, sont ouvertes pour s'efforcer d'y faire descendre la lumière supramentale. Diverses terribles possibilités émergent et de graves blessures intérieures, aussi bien que de sévères tensions corporelles doivent être endurées. Mais pendant toute cette lutte, le maître du supramental avait le talisman qui pouvait détourner le coup fatal, immense malgré la sublime lumière qu'il portait dans son corps sur ses épreuves. Mais il avait aussi la capacité d'en sortir, finalement victorieux. De tracer, en trait de feu, le sentier de l'ultime triomphe pour les hommes qui le suivaient. Vaincre fut donc le plan de Sri Aurobindo. Pour autant que ce plan puisse être déchiffré à travers ses écrits philosophiques et ses lettres. Ainsi, ce plan, tout autant que l'attitude universelle et non égoïste d'un avatar, transparaît dans une lettre de 1935. Je ne fais rien pour moi, car je n'ai personnellement besoin de rien, ni de libération, moksha, ni de supramentalisation. Si je cherche la supramentalisation, c'est parce qu'elle doit être accomplie pour la conscience terrestre, et si elle n'est pas faite en moi, elle ne peut pas l'être en d'autres. Oui, Sri Aurobindo, dans ses déclarations écrites, semble avoir envisagé le besoin et par suite formé le projet de constituer en lui-même et en mère le point de départ de l'humanité supramentale. Mais dans les mêmes déclarations, il laisse aussi une certaine marge pour un autre dénouement. Une lettre de 1934 parle en termes généraux des voix d'un instrument du divin. La divinité agit selon la conscience de la vérité en haut et de la lila, le jeu cosmique, en bas. Elle agit suivant les besoins de la lila et non suivant les idées qu'ont les hommes sur ce qu'elle devrait ou ne devrait pas faire. Une allusion plus claire aux détours inattendus dans les agissements du divin se trouve dans une de ses lettres de 1935. Pourquoi le divin serait-il obligé de réussir dans toutes ses opérations? Et si l'échec lui convenait mieux et servait mieux son but final? Que de notions rigides et primitives sur le plan divin. Ceci suggérait qu'une apparence défaite du but divin le plus grandiose pourrait même être une victoire cachée, précisément. Une voie pour atteindre ce but avec plus de rapidité au moyen d'une stratégie paradoxale. Et tout bien considéré, c'est en fait une telle stratégie qui semble avoir été employée par Sri Aurobindo, alors que pour un œil superficiel, il semble avoir succombé à une maladie rénale. Tout le yoga supramental fut en vérité comme une campagne militaire d'un grand général contre des forces qui n'avaient jamais été combattues précédemment par aucune personnalité spirituelle. À l'encontre de toute expérience commune, de toute situation de l'être humain à travers les âges, à l'encontre même de toute expression de la tradition spirituelle. Ce yoga-ci s'est avancé jusque dans les ténèbres les plus redoutables. Seul un combattant intrépide comme Sri Aurobindo, seul un génie de l'esprit militant comme lui pouvait percevoir intuitivement le grandiose secret de l'épiphanie dans l'évolution pouvait préparer l'assaut transformateur de la nature établie et marcher de l'avant dans l'état d'esprit révélé par une autre lettre de 1935. Ce n'est pas pour atteindre une grandeur personnelle que je cherche à faire descendre le supramental. Je ne me soucie ni de la grandeur ni de la petitesse dans le sens humain. Si la raison humaine me considère comme un fou, pour essayer ce que Krishna n'a pas tenté, cela m'est parfaitement égal. Il ne s'agit ni de X ni de Y, ni de personne dans ceci. C'est une affaire entre le divin et moi. Savoir si telle est la volonté divine ou non, si je suis envoyé ou non pour faire descendre le supramental ou pour ouvrir la voie de la descente ou tout au moins pour rendre cette descente davantage possible. Que les hommes me raillent s'ils le veulent. Que ma présomption, tout l'enfer me tombe dessus, je n'en continuerai pas moins jusqu'à ce que je vainque ou périsse. C'est dans cet esprit que je cherche le supramental, sans poursuivre la grandeur pour moi-même ou pour d'autres. Cette lettre est d'un splendide héroïsme désintéressé. Cette vigoureuse image d'un yogi guerrier qui prendrait n'importe quel risque s'il pouvait par là se rapprocher de son objectif. Bien que sa devise ait été « je conquiers ou péris », son état d'esprit aurait pu lui permettre de se servir d'une devise encore plus audacieuse. Je péris pour conquérir. Pour l'adopter, il lui était simplement nécessaire de comprendre qu'en sacrifiant dans une dernière étreinte avec les puissances sombres de l'inconscient, un merveilleux corps irradié de lumière supramentale, ces puissances seraient tout à fait épuisées et que la divinité d'or des hauteurs serait fortement attirée vers la terre et dans l'associer de ce corps dans le yoga supramental. Sitôt que cette compréhension de la plus haute importance apparut, Sri Aurobindo fut prêt, en suprême tacticien qu'il était, a changé tout son plan de bataille, a abandonné toute sa ligne de fortification déjà prête, a délaissé la vieille méthode d'approche, a modifié soudain sa direction, si bien tracée, et au lieu d'essayer de supramentaliser son existence physique dans tous ses détails, a s'avancé imperturbablement vers quelques embuscades titanesques, a éloigné même la protection qui lui était donnée par le supramental et a tombé en combattant afin de tout gagner en secret alors qu'il semblait tout perdre en apparence. Rien sauf un immense sacrifice stratégique de cette sorte permettant d'accélérer et de rendre absolument certaine la transformation physique de la mère et par cette transformation d'assurer l'enracinement et l'épanouissement d'une vie divine sur terre pour l'humanité. Rien d'autre ne peut expliquer le trépas de Sri Aurobindo. Cet holocauste impliquerait aussi une action rédemptrice mondiale par le doux pouvoir dont parle Sri Aurobindo dans une de ses lettres montant en 1934. Ce n'est que l'amour du divin qui peut porter le fardeau qui m'est destiné et que tous doivent porter. Ceux qui ont tout sacrifié dans le seul but de soulever hors des ténèbres la terre vers le divin. Nous pouvons soupçonner qu'une catastrophe inimaginable aurait submergé le monde si le vaste poison n'avait pas été attiré dans le corps de ce seul homme dont la conscience supramentale, armée d'un amour divin, avait fait un être universel incarnant la volonté du transcendant. Ici, nous pouvons encore nous référer au fait que les obstacles auxquels Sri Aurobindo faisait face dans son yoga n'étaient pas réellement des obstacles personnels. Ils étaient représentatifs de la race humaine et il acceptait joyeusement leur charge et de ces dons leur charge retardatrice et périlleuse. Alors je me permets de relire. Et il acceptait joyeusement leur charge retardatrice et périlleuse en dépit ou peut-être en raison de ses capacités et de ses dons exceptionnels. Au sujet d'un malaise physique éprouvé jadis par mère, il écrivait « Nous n'avons pas cherché la perfection pour nous-mêmes, mais comme une partie d'un changement général, créant une possibilité de perfection pour les autres. Cela ne pouvait pas se faire sans que nous acceptions et affrontions les difficultés de la réalisation et de la transformation, et que nous les surmontions en nous-mêmes. Ceci a été fait à un degré suffisant sur les autres plans, mais non encore dans la partie la plus matérielle du plan physique, jusqu'à ce que soit fait la lutte continue. Les difficultés de mère ne sont pas les miennes propres. Elles endurent les difficultés des autres et celles qui sont inhérentes à l'action et au travail généraux de la transformation. Il y en avait été autrement, tout aurait été bien différent. Dans ces conditions, quel que fût le sacrifice fait par Sri Aurobindo ou par mère, il ne pouvait leur avoir été imposé par leurs imperfections personnelles, leurs adhars, corps physique ou véhicule du yoga unique. Laissé à lui-même, aurait surmonté tout obstacle. Et en ce qui concerne le départ de Sri Aurobindo, il signifie que le maître n'avait pas à subir la mort par suite de quelque manque personnel. Ce fut une prodigieuse crise dans l'évolution de la conscience terrestre. Quelques reflux obscurs et rebelles de l'inconscient sous l'attaque divine, qui fut détournée par sa propre vie, concentrée dans le risque mortel d'un coma urémique et utilisée par ce maître en stratégie pour un avantage occulte dans le travail qu'il avait entrepris. Travail qui fut toujours plus important que sa réalisation personnelle directe. Mais il est essentiellement de l'essence du sacrifice et de la stratégie, aussi bien que typiquement qu'une résistance à s'allie à une vaste et paisible acceptation. C'est pour cela que nous avons dit que Sri Aurobindo est mort en combattant. Ne jamais accepter les imperfections de la nature était sa devise, car il voyait que le secret même de l'évolution est dans la manifestation de la nature terrestre de ce qui superficiellement paraît impossible. Le frémissement de la vitalité et de la sensibilité dans une matière apparemment sans vie, le miroitement de l'intellect et de la pensée dans une animalité apparemment instinctive, la révélation du supramental apportant la perfection dans une intelligence ostensiblement habituée à tâtonner, dans une force de vie capable de faux pas et dans un corps soumis à la mort. C'est pourquoi, pour Sri Aurobindo, il n'y aurait jamais pu être question ni de soumission aux conditions ordinaires du monde, ni de fuite dans la paix hors du monde. Il connut toujours une paix inviolable dominant le temps. Depuis 3 jours, depuis ces 3 jours mémorables à Baroda en 1908, où il atteignit par le complet silence mental l'expérience absolue du nirvana qui fut l'aboutissement de tant d'autres yogas, mais ne fut pour lui qu'une base vers de nouvelles conquêtes. Quant à se rendre, il ne pouvait se rendre à rien d'autre qu'au divin. En conséquence, il se battit dans la descente du supramental jusqu'à son dernier souffle, faisant descendre l'immortel soleil de l'esprit. Emmagasinant passionnément la lumière supramentale dans son enveloppe terrestre, à un tel point, en vérité, qu'il fut préservé pendant plusieurs jours cette enveloppe de la corruption et même de la décoloration. De se battre ainsi, au moment même du sacrifice, était en accord avec l'effort de toute sa vie. N'a-t-il pas lui-même exposé, dans une lettre, une technique du triomphe de ce qui peut sembler une chute? Même si je prévois un résultat adverse, je dois travailler pour celui que je considère devoir être, car cela garde en vie la force, le principe de vérité que je sers, et lui laisse une possibilité de triompher ensuite. Ce qui fait que cela devient partie de l'accomplissement du destin futur favorable, même si le destin de l'heure présente est contraire. Alors, je vais bientôt terminer ce fantastique chapitre du trépas de Sri Aurobindo. Sur cette phase prophétique, nous pouvons terminer notre tentative d'élucider un peu le mystère de cet aspect de majestueuse méditation que le maître garda depuis le matin du 5 décembre et pendant plus de 111 heures étendues sur le simple lit de sa chambre où il avait passé plus de 20 ans dans un travail intensif de portée mondiale. Spirituellement impériale est la seule expression qui convenait à son apparence corporelle. Spirituellement impériale, son maintien majestueux, avec sa barbe blanche et ses cheveux blancs tombant autour d'un front puissant, ses yeux tranquilles aux paupières fermées, et le nez aquilin aux narines bien dessinées, des lèvres fermes dont les coins étaient touchés par la béatitude, de larges épaules rondes, les bras repliés, les mains reposant sur sa poitrine indomptable, main d'artiste et pourtant main puissante, ange viril couverte d'une ample étoffe de soie liserée d'or, les jambes enfin étendues, avec une majesté innée qui semblait se souvenir bavoirent pendant 70 ans, foulés de leurs pieds sacrés une terre qu'il avait bénie et possédait à la fois. L'atmosphère de sa chambre était vibrante d'un pouvoir sacré, purificateur et illuminateur. Un pouvoir qui semblait émaner de l'équilibre de ce repos de vainqueur et qui pénétrait tous les veilleurs avec une force, leur martelant le cerveau, comme si redoublant d'intensité en raison du retrait de Sri Aurobindo de son corps physique, venant se déverser sur l'humanité la grâce transfiguratrice du supramental. Nous pouvons ajouter que la présence même de Sri Aurobindo était étrangement devenue plus intense. Lui, qui s'était si longtemps claustré dans une chambre afin de hâter, par sa concentration, le processus yogique de transformation, dont la merveilleuse félicité dynamique était transmise aux disciples par la mère, au moyen de sa proximité physique, avait créé en abandonnant son enveloppe charnelle une nouvelle intimité avec ceux et les avait pris comme encore plus directement dans son être immense. Ce serait à peine faire justice à cet être que de le penser seulement comme une immensité enveloppante. Derrière l'écorce matérielle existent les autres véhicules organisés, Sharira, le subtil et le causal. Sri Aurobindo, qui avait amené le causal éloigné dans le subtil proche, le poussait et le pressait dans l'enveloppe extérieure au moment de son sacrifice stratégique. Pour reprendre ses mots, la transformation avait été faite à un degré suffisant sur les autres plans. Ceci signifie qu'il gardait le supramental incorporé dans l'enveloppe subtile et qu'aucune nécessité occulte, aucune loi de nature subtile ne pouvait l'obliger à abandonner cette dernière enveloppe pour retourner à un plan où l'âme aurait pu se reposer afin de renaître avec un nouveau corps subtil, aussi bien qu'avec un nouveau corps matériel. Le maître, à l'heure où il quitta son corps, était à même de faire bien davantage qu'être le Purusha, l'être ou l'âme. Cosmique et transcendante, dans le yoga supramental, l'avait fait la personnalité incarnée. Il pouvait effectivement devenir ce Purusha actif dans un corps subtil indissoluble, à la fois humain et divin, en contact bien plus direct et constant avec le monde matériel que ne pouvaient l'être les formes que les mystiques prêtent aux rishis, prophètes et avatars. Dans un sens très spécial, par conséquent, Sri Aurobindo, cette personnalité gracieuse et merveilleusement douée, notre gourou, maître spirituel que nous aimons, est encore à l'œuvre et c'est une vérité concrète que la mère a exprimée en disant. S'affliger, c'est insulter Sri Aurobindo qui est ici même avec nous, vivant et conscient. Ainsi, l'œuvre continue. La mère affrontant le futur avec le maître sous une forme subtile à ses côtés. Et pour ceux qui ont foi dans l'achèvement de l'œuvre et qui comprennent ce qu'elle signifie, existe un espoir qui voit l'avenir riche d'une possibilité particulièrement merveilleuse et consolante. Sri Aurobindo a décrit au sujet de l'époque où la descente du supramental dans la chair vivante serait réalisée. suivant la théorie des occultistes et en accord avec l'échelonnement des domaines et des plans de notre être que la connaissance yogique nous révèle. Il n'existe pas seulement une force physique subtile, mais aussi une matière subtile, physique, intermédiaire entre la vie et la matière grossière. Créée dans cette substance physique, subtile, et précipiter ainsi la forme ainsi créée dans notre matérialité plus grossière est une chose faisable. Il devrait être possible, et certains affirment qu'il est possible, comme un objet formé dans cette substance physique subtile, d'être transféré de sa subtilité dans l'état de matière grossière directement par l'intervention d'une force et d'une méthode occulte, que ce soit une ou avec sans l'aide ou l'intervention d'un procédé matériel grossier. Une âme désirant entrer dans un corps ou se construire pour elle-même, un corps afin de participer à une vie divine sur terre, pourrait être aidée à le faire et même pourrait recevoir une forme par un procédé de transmutation directe sans passer par la naissance produite par l'acte sexuel et sans être soumise dans sa croissance mentale et le développement de son corps matériel à la dégradation et à aucune des lourdes limitations qui sont inévitables dans notre présente condition d'existence. Elle pourrait alors assumer tout de suite la structure, les fonctions et les pouvoirs plus grands d'un corps matériel vraiment divin, tel qu'il soit un jour, surgir par une évolution progressive vers l'existence totalement transformée à la fois, à la fois de la vie et de la forme dans une nature terrestre divinisée. Ces mots donnent l'espérance que Sri Aurobindo, qui avait divinisé l'enveloppe physique subtile, pourra employer le mode supramental de manifestation pour présider dans le domaine même de la matière à la nouvelle humanité que la mère divine initiera. Dans cette aurore dorée d'un âge divin, la mère sera le premier être à atteindre progressivement un corps divin dans un corps né d'une façon humaine, tandis qu'aidée par l'accomplissement de la mère, Sri Aurobindo sera le premier à endosser le vêtement physique de la transformation par une projection de substance et de forme émanant de la surnature. Rien évidemment n'est certain de ce que Sri Aurobindo voudra faire, mais la possibilité que nous exposons n'est pas en désaccord avec la lumière inextinguible et victorieuse que nous avons entrevu au-delà de l'humain. Dans l'événement qui, au regard superficiel du monde aspirant, apparaît comme un coucher de soleil universel, le trépas de Sri Aurobindo. Kade Setna, traduit de l'anglais Amal Kiran. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour la signification profonde et son importance du départ de Sri Aurobindo le 5 décembre 1950. Merci Sri Aurobindo, merci Mère, merci Stefano. Ganga Lakshmi.